Chapitre 22. L'oncle et le neveu s'effacèrent de chaque côté de la porte et le marquis, lentement, à pas fléchissant, entra dans la bibliothèque. « Eh bien, dit-il, qui fait ce tapage ?»« Moi, mon cousin, répondit Louis en s'inclinant respectueusement. Moi qui, pour vous voir, suis obligé de forcer votre porte. »« Moi, répondit en même temps M. de Carquebus, en prenant les airs d'un vainqueur, moi qui suis obligé de vous défendre et de me défendre moi-même contre ce pauvre fou. » Le marquis regarda un moment autour de lui, comme s'il ne se rendait pas bien compte de ce qui s'était passé. Puis il tendit la main à M. de Carquebus. « Je vous remercie, mon cousin, dit-il. » Puis, se tournant vers Louis, « Vous savez bien, monsieur, qu'il n'y a plus rien de commun entre nous. » « Ah, mon cousin !»« Je ne suis plus votre cousin, monsieur. Par vos procédés, vous avez brisé les liens de parenté, d'amitié, qui nous attachaient l'un à l'autre. Je vous prie de vous retirer. Vous voyez que je suis souffrant. Les secousses me font mal. Je vous prie de me les épargner. » Louis, qui n'avait pas vu le marquis depuis 2 ans, était épouvanté des changements qui s'étaient faits dans cet homme, naguère si fort et maintenant si faible. Et quoi ? C'était là son cousin le marquis, que tout enfant, il s'était habitué à considérer comme un géant des contes de fées, et plus tard, comme un paladin de la chevalerie. À le regarder, il se sentait envahi par une émotion douloureuse qui lui faisait presque oublier le but de sa visite. Monsieur de Carquebus se chargea de le lui rappeler. « Allons, dit-il, en s'efforçant d'imiter la dignité du marquis. » « Vous avez vu, monsieur, que nous ne vous trompions pas. C'est votre cousin lui-même qui vous répète mes paroles. Comme chef de la famille, je vous adjure de ne pas prolonger cette scène scandaleuse. Elle est indigne d'un galant homme, d'un magistrat. » Le marquis, qui goûtait peu ce genre d'éloquence et qui d'ailleurs avait hâte d'abréger une entrevue pour lui très pénible, allait rentrer dans son appartement lorsque Louis se jeta devant la porte. « Croyez, s'écria-t-il, qu'il faut des circonstances décisives pour me pousser à insister. Vous ne pouvez pas refuser de m'entendre. C'est à votre justice que je fais appel, à votre loyauté. Venez-vous désavouer votre lettre ?»« Oui, c'est là le mot juste, s'écria M. de Carquebus. C'est à cela qu'il faut répondre. Oui ou non, venez-vous désavouer votre lettre. C'est clair, cela. » « Il ne s'agit pas de cette lettre, répondit Louis, il ne s'agit pas de moi, c'est de mademoiselle Denise que je veux vous parler. »« Ah ! Si elle était là, refuseriez-vous de l'entendre ?»« Jamais Denise ne m'a donné un sujet de plainte. » »« Eh bien, c'est d'elle qu'il s'agit, de sa vie, de son honneur. C'est en son nom que je viens près de vous. » »« En son nom ? Les moments sont précieux. En son nom ? Répéta le marquis. Au nom de Denise, un changement s'était fait dans son attitude. Malgré son ancienne amitié pour Louis, qui s'était réveillée lorsqu'il l'avait vu, il aurait persisté dans sa résolution de ne pas l'admettre près de lui si le nom de Denise n'avait pas été prononcé. Il s'était engagé envers Clémence à rompre toute relation avec Louis et sa mère, à les considérer comme des ennemis selon son expression, et il voulait tenir cet engagement. C'était un devoir envers Clémence. Mais ce n'était pas Louis qu'il recevait, c'était celui qui se présentait au nom de Denise. « Entrez, dit-il. » Et au grand ébahissement de M. de Carquebus, il fit passer Louis devant lui. Alors, lui indiquant un siège de la main et s'asseyant lui-même, « C'est de Denise que vous voulez me parler, dit-il. Je suis prêt à vous écouter. Mais à cette condition... que dans cet entretien, il ne sera question que de Denise. Vous prétendez vous présenter en son nom. Comment cela est-il possible, je vous prie ? Je voudrais me conformer à cette condition et je vous promets même de l'observer autant que possible. Cependant, il me sera bien difficile de ne pas mêler mon nom à celui de mademoiselle Denise. » Non, non, pas de cela. » Puis-je séparer nos noms quand nos destinées sont unies ? Il est vrai que dans vos lettres, vous m'avez parlé de cette union. mais si je m'en rapporte à des affirmations desquelles il ne m'est pas permis de douter, cette union n'a jamais eu d'autre fondement que votre désir. » Je ne sais quelles peuvent être ces affirmations, mais de mon côté, je vous jure que si l'on ne vous trompe pas, au moins l'on se trompe. Si vous devez vous exprimer ainsi, il m'est impossible de vous écouter. Et moi, mon cousin, il m'est impossible de ne pas vous dire que j'aime Denise. Cela, je le crois. Et que Denise m'aime. Denise veut être religieuse. Denise veut être ma femme. C'est là qu'on vous trompe. Je veux dire, c'est là qu'est l'erreur dont Denise et moi nous sommes victimes, et cette erreur, je vais vous la montrer. C'est dans ce but que j'ai forcé votre porte, car Denise ne peut pas rester plus longtemps en but aux intrigues dont on l'entoure. Quelles intrigues ? Qui prétendez-vous accuser ? Je ne voudrais accuser personne, et je vous assure que j'ai à cœur de mesurer mes paroles et de retenir mon indignation. Mais il me faut sauver Denise. Et de quel danger Denise est-elle menacée, je vous prie ? On vous a dit, n'est-ce pas, que Denise voulait être religieuse ? Eh bien, cela n'est pas. Je vous ai dit que j'avais la preuve du contraire. La preuve, non, vous ne l'avez pas. L'affirmation, oui, c'est possible. Mais cette affirmation n'est pas une preuve. Elle en est une pour moi. Denise vous a-t-elle dit qu'elle voulait être religieuse ? Vous l'a-t-elle écrit ? Non, n'est-ce pas ? Elle n'a jamais écrit qu'elle ne voulait pas l'être. J'ai été fixée sur ses véritables intentions par une personne qui mérite toute confiance. Louis ne répondit pas aussitôt. Mais, ayant atteint son portefeuille, il en tira la lettre qu'il y avait placée le matin même. J'aurais voulu, dit-il, ne pas faire usage de la lettre que voici, car elle devait rester entre mes mains et ne vous être jamais communiquée. Mais je vois que Denise ne peut être sauvée que par elle, votre esprit a été prévenu. Vous n'avez plus foi en personne, même en ceux que vous savez incapables de mentir. Lisez donc, vous ne m'avez pas cru, mais Denise, vous la croirez. Denise ? Oui, Denise, qui, en réponse à une lettre que j'ai pu lui faire parvenir dans son couvent, m'a répondu celle-ci. Vivement, le marquis prit la lettre que Louis lui tendait. Puis, se levant, il se mit à chercher sur une table, car il n'était plus au temps où il pouvait lire son journal en le tenant détalé sur ses genoux. Comme sa force, sa vue s'était éteinte. « Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, dit-il. « Il me faut une loupe, maintenant. »« Si vous voulez simplement suivre sur le papier, répondit Louis, je puis vous dire cette lettre que je sais par cœur. Cela pourra vous rendre cette lecture moins fatigante. »« Oui, dites. » »« Votre lettre m'a été fidèlement et adroitement remise, sans compromettre la personne qui avait bien voulu s'en charger. J'espère que cette réponse vous parviendra aussi. » J'avoue que j'ai hésité longtemps à l'écrire et qu'il n'a fallu rien moins que ce que vous me dites de votre inquiétude et de vos tourments pour me décider. Pourquoi cette inquiétude ? Ce chagrin et ce désespoir qui vous accablent vous ont donc enlevé jusqu'à la foi ? Vous voulez que je vous assure que mon cœur n'a pas changé ? Il me semble que c'est lui faire injure à ce cœur que de m'adresser une pareille demande. Depuis notre longue séparation, et pour moi non moins longue que pour vous, jamais une pensée de doute ne s'est présentée à mon esprit, et si j'avais eu la liberté de vous écrire, je ne l'aurais pas fait pour vous demander de m'assurer que votre cœur n'avait pas changé. Mais puisqu'une parole d'affirmation peut vous être, me dites-vous, une joie et un soutien, je ne veux pas vous la refuser. Non, mon cœur n'a pas changé, et ce qu'il était pour vous à Rudemont, il l'est encore, il le sera toujours. De cela, soyez bien convaincus, et s'il vous faut un serment, je vous le donne. Rien, entendez-vous, ni l'absence, ni les efforts qu'on tente, ni le temps, rien ne pourra le changer. Le sentiment dont il vous a fait l'aveu, demain comme dans 10 ans, sera toujours le même. Et cependant, ses efforts pour me pousser vers le cloître sont grands. Mais si les luttes auxquelles il m'expose sont pénibles, n'en prenez pas souci. Ces tentatives, qu'on répète sous toutes les formes et de toutes les manières, n'arriveront pas plus à m'éloigner de Dieu en me montrant comme on peut abuser de son nom sacré qu'à effacer l'engagement que j'ai pris envers vous. Malgré tout, contre tous, je resterai fidèle à ma foi et à mes sentiments. N'étaient ces luttes qu'on soutient contre une volonté qui n'a pas faibli et ne faiblira pas, je ne devrai que de la reconnaissance à ceux qui s'occupent de moi dans notre couvent. Sans doute, c'est un couvent avec des murs et une porte close. Plus de promenades, plus de tours de parc. Et pour qui a respiré en plein air, pour qui se souvient et espère, les journées sont longues. Mais enfin, elles passent et elles passeront. Qu'importe quelques chagrins quand on est sûr de l'avenir. C'est cette confiance en l'avenir qui fait que je vous adresse une prière que vous m'accorderez, j'en suis certaine. Que mon parrain ne sache jamais rien de ce que je vous dis ici, et ne faites aucune tentative auprès de lui, soit directement, soit indirectement, pour changer la détermination dont vous me faites part dans votre lettre. Mon parrain ne veut pas pour le moment consentir à notre mariage et se réserve de voir plus tard ce qu'il fera. Eh bien, attendons ce plus tard. La volonté de mon parrain a été de me mettre au couvent. Je me suis soumise à cette volonté comme je le devais, sans un mot de résistance ou de plainte. Maintenant, je veux me soumettre encore et je vous demande de vous soumettre vous-même à ce qu'il exige de nouveau. Pour moi, ma règle a toujours été d'accepter, les yeux fermés, les désirs ou les ordres de mon parrain. Au prix même de mon bonheur, je ne me départirai pas de cette règle. Ce n'est pas en le contrariant ou en le peinant que je veux le payer de toutes ses bontés et de tous ses témoignages de tendresse. C'est là pour moi une exigence de position, mais c'en est une surtout de profonde affection. Acceptons donc le présent tel qu'il est, et si pour vous soutenir, il vous faut l'assurance que vous me trouverez dans l'avenir telle que j'étais il y a 17 mois, je vous la donne de grand cœur. Oui, vous pouvez compter sur moi. Oui, vous pouvez compter sur l'inaltérable tendresse de celle qui est et sera toujours votre Denise.